Les voies de service, mercredi 5 décembre 2018. Bonjour, Isabelle Falardeau au micro, entourée aujourd'hui de Serge Bradet.
Bonjour Isabelle.
Et de Daniel Lachance.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, on va faire le tour de toutes sortes de sujets hétéroclites, puisque généralement, nos sujets n'ont aucun lien les uns avec les autres, à part l'enthousiasme avec lesquels on va les partager. De mon côté, en première partie, je vais vous parler d'environnement. D'une part, le Conseil tribal des Premières Nations, Nuchanult, qui demande à la Colombie-Britannique de mieux protéger ses anciennes forêts pour préserver l'environnement et leur culture. Ottawa, qui demande aux Autochtones d'être les gardiens, les anges gardiens de l'environnement. C'est des leaders autochtones de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Nunavut qui ont signalé à la ministre fédérale de l'Environnement que ça devait les impliquer et elle a répondu. Et de votre côté, Daniel?
Eh bien, en première partie, je vais vous parler d'un auteur, compositeur, interprète très connu au Québec, en fait, qui a une carrière d'une cinquantaine d'années à date et qui nous présente un gros projet. Il nous arrive avec quelque chose de nouveau.
Excellent. Et de votre côté, vous gardez toujours le mystère, Daniel. Ouais. C'est toujours agréable d'essayer de deviner de qui vous allez nous parler. Et de votre côté, Serge?
Un article dans la presse plus de dimanche qui s'intitule « L'inspirante leçon d'Eva Cooper ». C'est triste, mais il faut le lire. C'est une survivante de l'Holocauste juif.
Ah, d'accord.
C'est Rima El-Khoury qui a assisté à sa leçon, au partage qu'elle a fait devant des jeunes. Elle nous partage ça.
D'accord. Ça sera, sinon joyeux, ce sera au moins instructif.
Merci. Oui.
Et donc, je commence tout de suite en environnement. Donc, ces fameux anges gardiens de l'environnement. Ottawa espère que les Autochtones seront les anges gardiens de l'environnement. C'est un article que j'ai pris dans le Quotidien, enfin sur le site web du Quotidien. Et c'est signé la presse canadienne. Ça a été mis en ligne, le 13 novembre. Donc, c'est ça, c'est des leaders autochtones de la Colombie-Britannique, je le disais tout à l'heure, du Manitoba, du Nunavut, qui s'inquiétaient un peu là, du manque d'implication de leur nation dans la préservation du territoire. Et donc, les dirigeants se sont rencontrés à Sydney, en Colombie-Britannique. J'en avais parlé un peu, je pense, il y a deux semaines. J'ai essayé de trouver exactement l'article, là, mais il y a plus d'informations ici, alors je trouvais que c'était quand même pertinent. Donc, il y avait une cérémonie au cours de laquelle le gouvernement fédéral s'est engagé à un financement de 5,7 millions de dollars pour 28 projets autochtones choisis dans le cadre du programme pilote des gardiens autochtones. La ministre McKenna a soutenu que ce programme reconnaît les droits et les responsabilités des peuples autochtones à l'égard de la terre et des eaux de leur territoire traditionnel. Et elle estime que le soutien financier d'Ottawa va permettre aux communautés autochtones des Premières Nations, des Métis et des Inuits d'effectuer leur travail d'intendance en vue de protéger les secteurs et les espèces vulnérables, à surveiller la santé écologique et à maintenir les sites culturels autochtones. Le chef David Wakem de la communauté de Cook's Ferry en Colombie-Britannique a déclaré à la suite de cette rencontre qu'une partie du projet impliquerait que sa nation renoue avec le territoire après des décennies d'influence industrielle qui remonte jusqu'à la ruée vers l'or au 19e siècle. La ministre McKenna a soutenu aussi que les peuples autochtones comprennent l'importance d'agir maintenant pour protéger l'environnement du Canada et la biodiversité. Elle estime que ce programme pilote des gardiens autochtones leur offre l'aide dont ils ont besoin pour être les meilleurs gardiens possibles des terres, eaux et glaces sur leur territoire traditionnel. Maintenant, on parle un peu musique avec vous, Daniel.
Oui, un article que j'ai trouvé sur le site ledevoir.com qui a été publié le 30 novembre. Charles Lebois, plus vieux, plus fou. Est-ce que vous aviez deviné que c'était lui?
Est-ce qu'il peut vraiment être plus fou? En même temps, c'est difficile de l'imaginer en train de vieillir.
Au piano nobilé de la salle Wilfrid Pelletier, Robert Charles Lebois annonçait jeudi matin une grosse affaire. Une méchante patente, un projet méga géant. Allez-y, les superlatifs, ce n'est pas de longueur. Ça, là-dessus, on voit qu'il n'a pas vraiment changé. Un spectacle spectaculaire, c'est pas... Oui. Est-ce que ça se dit?
Ben oui.
Mais il a dit que ça se dit.
Ouais,
ça
oui, ça se dit. Oui, oui. Un spectacle spectaculaire avec un nom qui en promet des jalons, Robert en Charlebois-scope. En un mot, Charlebois-scope. Ce sera présenté à Québec, à Montréal, à Ottawa et à Sherbrooke. Première au Grand Théâtre de Québec le 25 mai 2019. Donc, vous avez le temps d'acheter des billets.
On a le temps de réserver ouais. Notre soirée.
Et finale au Centre culturel de Sherbrooke le 19 octobre 2019. Il est quand même assez optimiste, hein? C'est dans presque mm-hmm. un an.
Ça. Vous dites ça à cause de son âge?
Ou... Ben, je ne sais pas, hein? mais quand même,
mais oui,
il est assez en
c'est
forme.
Longtemps
on a souvent tendance à oublier ça, hein? Quand on parle, exemple, des Rolling Stones mm-hmm. ou de Paul McCartney. Mm-hmm. Ah, à son âge, il fait encore ça. Charles Lebois est à peu près le même âge.
Quel âge a-t-il?
Ben, c'est ça.
Je pense qu'on en parle un peu plus loin. Donc, il s'agit d'une grande bringue rock and multimédia, une aventure de la démesure pour laquelle notre garou premier... ça aussi.
C'est quoi de. Non?
Quand le chanteur Garou est arrivé, je pense qu'on commence à entendre parler de lui à l'époque de Starmania. Ou je trouvais ça bizarre qu'il s'appelle Garou parce que pour moi, Garou, c'était Robert Charlebois.
C'était pas plutôt, Notre-Dame de Paris, Garou.
Ah, peut-être, oui. Sauf que. Moi,
et donc, Charlebois, c'était Garou.
Oui, oui, absolument.
Là, comme toujours, vous apportez à ma culture.
Voilà, donc Garou premier s'allie avec l'équipe For You to See, ça s'écrit 4U2C, mais si on le prononce en anglais, je suppose, ça donne For You to See, qui est une excroissance du Cirque du Soleil, et le studio multimédia Champagne Club Sandwich. Ça fait plaisir, ne serait-ce que sur papier. Le titre Robert en Charlebois-scope résonne fort. On pense forcément à Super Archipelago. Le spectacle fou, ouais, c'est là j'ai de la misère plus.
C'est vous qui avez des ouais. exercices de prononciation
ouais,
ce matin.
Oui, c'est assez celui-là. Super archipelago. Ben, après deux fois, ça va. Le spectacle fou d'il y a presque cinq décennies, fomenté par Charlebois avec Marcel Sabourin et Mouffe. Je suis surpris un peu qu'on ne parle pas aussi de Lost It Show, qui mm-hmm. était à peu près à la même époque, mm-hmm. en 60.
Qui était, en tout cas, moi, d'ailleurs. Personnellement, qui m'a plus marqué.
Oui, ça fait 50 ans, ça ne vous rajeunit pas, hein?
Ça m'a marqué, je l'ai vu en rediffusion, pas en direct, mais dans l'imaginaire collectif québécois, c'est
ouais,
beaucoup plus
c'est
marquant,
quand
le
même.
Studio.
Tout le monde connaît le studio. Ce spectacle se voulait une bande dessinée vivante avec un scénario science-fiction et pièces de pyrotechnie à l'appui. Je cite Claude Gagnon dans son livre « Robert Charlebois déchiffré », paru en 1976 chez Albin Michel. Ce spectacle-ci se veut une célébration du garou le plus rock avec des projections vidéo spectaculaires sur un écran géant de la taille de deux maisons. On mentionne pas le nombre d'étages des maisons ni les dimensions.
Oui,
mais
c'est
bon.
Ça. Il y a certaines maisons qui prennent plus
on
de place que d'autres.
On a la difficulté à s'imaginer un peu. Là.
Sur lequel... On devrait toujours y aller en terrain de football. C'est beaucoup plus simple.
Ouais, c'est vrai.
Après, il faut
ça,
dire c'est du football américain ou du soccer.
Donc, c'est une fraction de terrain de football, je suppose. Sur lequel on projettera plusieurs œuvres visuelles qui traduiront en images et en motion design les différentes époques du parcours Charlebois, du psychédélique à l'aérobic. Pour ses, vous posiez la question tantôt, mm-hmm. pour ses 75 ans, promettons, Charlebois ressortira tout un tas d'archives personnelles, petits bijoux, documentaires et autres surprises. On notera que cette proposition ambitieuse arrive sur les talons de Boom Dang Sansu. Un autre spectacle hors de l'ordinaire, un titre aussi hors de l'ordinaire, présenté celui-là en mars 2019 par Philippe Braque avec l'orchestre de l'Agora dirigé par Nicolas Ellis à la Maison Symphonique. Il y a une certaine symétrie dans ces événements plus grands que nature, d'autant que l'audace et l'esprit d'invention d'un Braque évoquent irrésistiblement le Charlebois des années sans limite. Signe d'un nouveau temps nouveau où les frontières du possible et les frontières tout court ont le plus urgent besoin d'être dynamitées.
Elle s'appelait Conception et avait besoin d'affection. Elle avait un chum en prison. Il jouait trop bien du gant. Conception. L'autre s'appelait Ramon et conduisait un gros camion.
autour de la maison. En fumant un drôle de gazon. Par un soleil brûlant du jour de l'an. Le gros ramon qui éruptionne dans la maison. Il lui ôta son caleçon pour lui offrir son corazon. Elle s'appelait Conception. Il avait besoin d'affection. Elle avait un chum en prison. Il fêtait sa libération. Il s'en, toujours pas de réponse, il défonce. En finissant son 40 ans, elle s'appelait Conception. Et avait besoin d'affection. Pendant qu'elle était sous Ramon, Pistolio entra dans le salon. Menton bien rond de Ramon. Aïe, 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 aïe. Pistolio n'avait pas son gun. Ramon sortit son couteau. Pistolio cassa son goulot. Ramon trouva son moins fun. Il y eut une grande révolution. Révolution, 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 révolution. Les deux tombèrent du balcon. Et se cassèrent la colonne. Elle s'appelle Conception. Et a grand besoin d'affection. Il ne vient plus jamais personne.
Quel artiste incroyable, Robert Charlebois et Conception.
Ah, vraiment. Je viens de l'ajouter dans ma playlist. À chaque semaine, j'ajoute des
chansons. Ça, c'était la belle époque de Charlebois. Et les musiciens qui l'accompagnaient sur cet album-là, c'était ceux qui ont formé par la suite Villemar Blues Band.
Ah, Gagnon, oui, Michel Séguin et compagnie. Ben, c'est pour ça que c'est bon. Merci beaucoup. Et donc, Serge, vous allez nous faire retomber de notre nuage avec un sujet un peu plus terre-à-terre, donc sur l'Holocauste.
Savez-vous qu'il y a un musée de l'Holocauste à Montréal? Vous savez pas, hein?
Moi, je savais. Oui. Mais moi, je suis
à Montréal, je savais pas.
Alors, ouais. Sur chemin Côte-Sainte-Catherine, un petit peu, quand on va vers l'ouest, un peu avant l'hôpital Sainte-Justine, okay. À ma grande honte, ma grande gêne, je ne l'ai pas visité. Et c'est une chose que je devrais faire et qu'on devrait tous faire.
On ira tous ensemble en sortant.
Oui. Ce musée-là a eu 18 220 visiteurs durant la saison 2017-2018 et il y a eu 17 survivants qui ont fait partager leur témoignage à 12 026 personnes, dont entre autres la dame dont je vais vous parler ce matin, Eva Cooper. C'est un article de Rima El Khoury qui a assisté à ce partage qu'elle a eu avec des jeunes. Alors, je m'appelle Eva Cooper. Je suis ici pour raconter mon histoire. C'est une histoire dure. C'était au musée de l'Holocauste de Montréal, mardi après-midi dernier. Eva Cooper, 78 ans, survivante de la Shoah, a pris la parole devant des élèves du collège Charles Lemoyne.
Wow, elle devait vraiment être très, très jeune, ça veut dire.
Oui, elle avait 2 ans. Quand Eva Cooper parle, tout le monde écoute. Sa voix est douce, elle n'a pas de micro. Qu'importe, l'horreur qu'elle raconte sonne comme des hurlements. Les leçons de courage qu'elle évoque donnent des frissons. Pendant plus d'une heure, en silence, les yeux embués, nous étions tous suspendus à ses lèvres. Née en Pologne en 1940, au sein d'une famille juive, Eva Cooper avait 2 ans lorsque, dans la Pologne occupée par les nazis, sa mère et elle ont été forcées de monter dans un wagon aux côtés d'autres femmes et enfants du ghetto de Varsovie. Direction le camp d'extermination de Treblinka. Ils appelaient ça la réinstallation. Comment est-ce qu'on peut jouer avec les...
Oui, pour convaincre les gens d'y aller. Évidemment.
Certains espéraient être emmenés en quelque part de mieux. On ne pouvait pas croire que ça puisse être pire que le ghetto de Varsovie, qui était assez sordide. Les plus réalistes savaient que ceux qui embarquaient dans ces wagons à bestiaux ne revenaient jamais. À 2 ans, Eva Cooper était trop jeune pour se souvenir de quoi que ce soit. Il lui a fallu toute une vie pour rapiécer les morceaux de sa propre histoire. Le jour où Eva Cooper et sa mère ont été amenés à la gare, son père a appelé à la rescousse Regina, la cousine de sa mère, qui ne faisait pas partie du convoi. Regina a couru jusqu'à la gare. Au milieu de la foule, alors que des femmes et des enfants s'entassaient dans les wagons, elle a aperçu Eva dans les bras de sa mère. Elle s'est mise à crier « Arrêtez, c'est mon bébé! »
Oh.
Oui, ça fait penser au choix de Sophie, ce qui va suivre, là, le film là, des... La mère d'Eva l'a entendu et s'est retournée et elle a su que c'était sa seule chance. Me tenant au bout de ses bras, ma mère m'a soulevé au-dessus de la foule. J'ai été portée de main en main jusque dans les bras de Regina. C'est le premier miracle qui me permet d'être ici pour raconter mon histoire. Eva Cooper pense souvent à ce moment où sa mère a dû faire ce choix déchirant. Personne dans ce train n'a survécu. Je pense à ce moment. Pensez-y. Qu'est-ce que votre mère ferait si vous étiez en danger?
Ah, oh, j'ai la chair de poule.
Oui, ça donne la chair de poule. Eva Cooper pense souvent aussi au courage de Regina. Regina qui finalement a aussi trouvé la mort peu de temps après à Treblinka. Elle a risqué sa vie, elle n'y a pas pensé. Pouvez-vous vous imaginer à quel point c'était brave de sa part? Son père, là, je saute quelques paragraphes, là. Son père l'a retrouvé et il se déplaçait dans la clandestinité avec une enfant. Son père de 2 ans était aussi très risqué. C'est ce qui a incité le père d'Eva à la confier à Anka, une femme polonaise qui s'occupait déjà d'une orpheline de la guerre appelée Sophie. Anka a pris soin d'Eva pendant 4 mois, atteinte de tuberculose, ayant de plus en plus mal à prendre soin des 2 filles. Elle a supplié des religieuses croisées à la gare de les prendre en charge. Les sœurs ont accepté. Elles ont emmené Eva et Sophie dans une maison de ferme où elles sont restées jusqu'à la fin de la guerre. Mes premiers souvenirs sont là. Je me rappelle les champs, la petite colline et le village à côté. À la fin de la guerre, Eva Cooper a pu retrouver son père. Elle avait 5 ans et avait tout oublié de lui. Je ne l'avais pas vu depuis mes 2 ans. Et les souvenirs qu'on a à 2 ans...
Non, c'est ça, effectivement. Ouais.
Sentant qu'il était encore risqué d'être juif en Pologne, le père d'Eva lui a caché sa véritable identité. « Nous avons vécu en Pologne comme des catholiques. J'allais à la messe. J'ai fait ma première communion à 6 ans. » Ce n'est que dans le bateau qui, en décembre 1948, l'est transporté vers le Canada que le père d'Eva lui a révélé son secret. « Eva, j'ai quelque chose d'important à te dire. Nous sommes juifs. » Ayant elle-même assimilé l'antisémitisme de l'époque, elle a d'abord eu du mal à l'accepter. J'étais fâché contre mon père et lui disais « Peut-être que tu es juif, mais pas moi. » Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter mon identité et encore plus de temps pour être fier. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps?
Allez-y.
Oui, oui. Eva Cooper a grandi en paix à Montréal. J'ai eu une belle vie. Pendant des années, elle ne pensait jamais à l'Holocauste. Elle ne posait presque jamais de questions à son père. Elle savait que s'il le faisait, il n'en dormirait pas pendant 2 jours. Mais en réalité, je ne posais pas de questions parce que je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas de ce fardeau sur mes épaules. Elle est devenue enseignante, s'est mariée, a eu 3 enfants, et c'est sa plus jeune fille, Félissa, dont le nom rappelle celui de sa grand-mère, Fela, tuée dans l'Holocauste il y a 18 ans, l'a poussé à faire des recherches sur son histoire. À sa retraite, très touchant, en 2005, Eva Cooper a fait un voyage en Pologne sur les traces de son passé. Elle a appris qu'une religieuse qui l'avait sauvée, sœur Klara Jarosinska, qui lui avait sauvé la vie, était encore vivante. Elle avait 94 ans, elle était aveugle, mais elle avait toute sa tête. C'est ainsi que 60 ans après la guerre, Eva Cooper s'est pointée un jour, un bouquet de fleurs à la main, à l'Institut des aveugles de Laski, où résidait sœur Klara. Quand on lui a annoncé sa présence, la religieuse a ouvert grand les bras, elle m'a serré contre elle. Elle pleurait, je pleurais aussi. Eva Cooper voulait savoir pourquoi cette femme avait risqué sa vie pour protéger une petite fille juive. Sœur Klara lui a dit qu'elle n'avait aucune intention au départ d'accepter de la prendre sous son aile, c'était trop dangereux. Mais au moment où Anka l'a suppliée de la faire, sœur Klara a vu cette petite fille courir vers elle, mettre ses bras autour de ses jambes et lever les yeux vers elle en disant « Prenez-moi dans vos bras, s'il vous plaît.
Oh. »
Son cœur a fondu, elle m'a prise dans ses bras et je me suis collé sur son épaule. Cette réponse a changé ma vie. J'ai réalisé qu'elle m'avait offert deux cadeaux, le cadeau de la vie et le cadeau de l'amour. J'avais 2 ans, elle n'avait personne pour aimer, elle m'a enseigné l'amour. Et ce qu'il faut bien tirer de cette leçon, nous dit Eva Cooper, c'est que elle s'adresse aux jeunes en disant « Vous êtes la dernière génération de jeunes qui peuvent entendre les histoires des survivants de l'Holocauste. » La génération d'après,
ils vont tous être morts. Oui,
donc, ce qu'on aura, c'est les films d'archives,
oui,
tout ça.
Oui.
Et il y aura toujours quelqu'un pour dire que le film d'archives, c'est une production d'Hollywood,
voilà,
puis ça a été maquillé, puis là-bas. Alors, c'est important, si on ne se rappelle pas ces choses, il y a plus de chances qu'elles se répètent. Et malheureusement, collectivement, nous n'avons pas appris beaucoup. Il y a encore aujourd'hui des communautés qui sont victimes de génocide, on le sait. Et voilà.
Merci beaucoup, Serge. On revient plus près de nous et en environnement. Un article que j'ai choisi tout simplement parce que j'avais envie de vous décrire cette photo d'un cèdre rouge, ou je pense qu'en français, il s'est traduit par cèdre rouge dans l'article, mais je pense qu'on dit un tuya de... Comment on prononce? Tuya ou tuya? Enfin, ce gros arbre de Californie.
Ah,
là.
Le tuya, oui, oui.
Alors, c'est qu'on voit cet arbre abattu et il y a une membre des Premières Nations qui est debout à côté du tronc et le tronc est plus haut qu'elle, donc le diamètre est plus de 3 mètres là, de cet arbre-là. Alors, j'étais vraiment impressionnée par la photo. Et donc, l'article est intéressant aussi. Donc, c'est le Conseil tribal des Premières Nations, Nootchanoult. Donc, les terres des Nootchanoult sur la côte ouest de l'île de Vancouver abritent quelques-uns des arbres les plus anciens et les plus gros de la province. Les Premières Nations déplorent toutefois la disparition rapide de ces témoins des temps anciens et somment la province de ralentir, sinon d'arrêter leur coupe. Hein, c'est pas facile. C'est des arbres qui peuvent avoir jusqu'à 300 à 600 ans. Donc, en planter un, il faut attendre 600 ans avant qu'il devienne aussi.
Oui, il faut être patient.
Oui, et donc ça, c'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, ici Colombie-Britannique, Yukon, qui a été publié le 10 novembre. Donc, pour la présidente du Conseil tribal, Judith Sawyers, il est surtout question de préserver l'héritage culturel des Premières Nations. Toutes nos vies et une bonne partie de notre spiritualité sont liées à la forêt. Les Premières Nations Nootchanoult utilisent traditionnellement le bois de cèdre jaune et rouge âgé, notamment pour la fabrication de canaux, de totems et de maisons longues. Faute d'arbres, d'autres Premières Nations viennent désormais s'approvisionner chez les Nootchanoult. Et la présidente du conseil, donc Mme Sawyers, précise toutefois que la coupe ne menace pas que les arbres, mais qu'elle a aussi un effet sur la fraie des saumons. Là, on ne précise pas dans l'article pourquoi, mais d'après ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est parce que la déforestation a un gros impact sur la qualité de l'eau dans les cours d'eau, parce que c'est la végétation qui absorbe, dans le fond, les phosphates, puis toutes les substances donc, qui sont nocives pour les poissons, donc et les déchets des poissons aussi, parce que ça... ça fait leurs besoins dans l'eau, ces petites bêtes-là, forcément. Mais non, c'est ça. Donc, moins il y a d'arbres, moins tout ça s'est filtré. Alors, des moyens de protection sont toutefois en place puisque la province protège quand même 55 % des 3,2 millions d'hectares de forêts anciennes qu'elle compte sur son territoire. Moi, j'ai eu un petit frisson lisant l'article parce que j'ai réalisé, quand on nous parle de ces feux de forêt en Colombie-Britannique, bien, ici, on pense à des feux de forêt, puis on s'imagine plein de conifères, mais là, on s'imagine plein de tuyas géants de 600 ans et de 3 mètres de diamètre. Là, c'est pas la même chose. Alors, bien, c'est pas assez, justement, selon... Donc, c'est ce 55%-là de protection, selon divers groupes environnementaux qui demandent une extension de l'aire protégée. Et Mme Judith Sawyers dit qu'il est impératif que les entreprises qui exploitent les forêts de la province s'inspirent des pratiques autochtones quant au respect des forêts anciennes. Parce qu'il faut dire que certaines des Premières Nations, nous, Chanout, exploitent des entreprises forestières en vertu des traités qui les lient au gouvernement fédéral, mais elles le font en tentant de préserver le patrimoine des forêts anciennes. En terminant, dans une déclaration, le ministère des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des Ressources naturelles et du Développement rural... dit s'engager à travailler avec les Premières Nations pour assurer une gestion durable des écosystèmes des forêts anciennes. Daniel.
Oui. Connaissez-vous Joséphine Baker? Bon,
oui.
Au moins.
Moi aussi, je la connais.
Bon. J'ai deux noms, vous la connaissez.
J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Ah, c'est voilà. Ça, oui. Voilà, donc, il s'agit de la première femme noire à connaître une véritable carrière de chanteuse internationale à succès. Mm-hmm. Et un film biographique français présente les grandes lignes de la vie de cette vedette du musical devenue, malgré elle, une icône du militantisme contre le racisme et la xénophobie. Son histoire débute en Louisiane, là où elle grandit dans une famille pauvre, bien avant de devenir une superstar en Europe dans les plus grands cabarets. Mm-hmm. Et ceux qui s'intéressent, ça joue ce soir à 19h30 au cinéma du musée sur la rue Sherbrooke-Ouest.
Ah, bon. C'est vrai que c'est drôle d'être devenir une militante simplement parce que de la couleur de sa peau, on est un symbole. Alors, ben merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin à la première partie de l'émission. On vous revient avec d'autres sujets tout aussi hétéroclites après une courte pause. À tout à l'heure.
Sí. Et moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme mon petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan qui, Satan qui moise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
La petite tonkinoise Joséphine Baker.
Oui, et je vous rappelle que si ça vous intéresse, le film, le documentaire sur sa vie passe ce soir à 19h30 au cinéma du musée, au 1379 A rue Sherbrooke-Ouest à Montréal.
Merci. Et en cette deuxième partie d'émission, de mon côté, je vais vous parler de fouilles archéologiques qui se poursuivent dans le centre-ville de Montréal, mais cette fois-ci en compagnie d'une étudiante Mohawk qui suit les archéologues et c'est le résultat d'une collaboration entre la Ville de Montréal et le Conseil de bande de Kanawagé. Daniel, en musique, vous allez nous parler de encore un peu de mystère ou...
Mais je vais vous parler de musique reggae et je vais vous dire tantôt pourquoi. Je parle de musique reggae en général.
Alors peut-être qu'on va entendre
pas d'un
de
artiste
reggae
en particulier, mais la musique reggae en général.
D'accord, oh, merci. Puis de votre côté, Serge?
Moi, j'ai une petite devinette qui va vous mettre en qui va vous titiller jusque dans...
Je connais.
Il y a un quotidien qui est disparu il y a 40 ans. Devinez lequel. Puis je vais vous parler aussi...
Vous êtes vieux, vous, c'est pour ça.
Et ensuite, les salles de cinéma à Verdun.
Ah, d'accord.
Ville de Verdun, ouais.
Merci beaucoup. Hey, on commence tout de suite avec ce quotidien montréalais. Vous allez, le mystère n'aura pas duré longtemps.
Vous ne pouvez pas attendre. Daniel a la réponse?
Oui, oui.
C'est quoi?
Mais je ne la donne pas, je ne veux pas vous enlever. Le... non, je pense que c'est Montréal Matin.
Oui, c'est ça, Montréal Matin.
Oui, je me souviens. Ouais, ouais. Il y avait plein de journaux dans ce temps-là. Photojournal, Petit Journal.
Allopolis.
Allopolis. Ah oui, Photopolis.
Ben, on n'avait pas Internet, alors les sources devaient être plus diversifiées un peu.
Et d'ailleurs, les gens, mes grands-parents maternels étaient près de Mont-Laurier. Et dans les gens dans ce coin-là, tout le monde pensait à cause... Allopolis, Montréal Matin, c'était des meurtres à pleine page. Les gens pensaient qu'on...
vivait dans une société pleine de meurtres à tous les coins de rue.
Ouais. Alors, c'est un article que j'ai pris dans le Montréal Fadoc de cet hiver 2018-2019. Un article de Odette Bourdon, qui est un membre de la Fadoc et qui a travaillé au Montréal Matin. Alors, elle dit... Le jeudi 28 décembre 1978, je suis dans la salle rédaction du Montréal Matin et prépare la chronique quotidienne « Les gens ». Soudain se répand une rumeur dans la salle presque vide. Bientôt, d'autres journalistes arrivent après avoir entendu à la radio que le journal est fermé. Consternation générale, même pas le temps de rédiger un dernier article. Du jour au lendemain, une centaine de personnes se retrouvent au chômage. Une soixantaine de journalistes, des photographes, graphistes, réceptionnistes, secrétaires. Chacun devra vivre un terrible deuil. Pour ma part, le deuil sera pénible, même si quelques jours plus tard, je me retrouve à Radio-Québec. C'est d'aussi loin que je me souvienne, le Montréal Matin a fait partie de ma vie. Mon père y a passé sa vie. Quelques jours après la parution du 4 juillet 1930, il y fut engagé. Il n'avait que 17 ans et un cours de journalisme en poche. Je ne savais pas qu'en 1930, ils se donnaient des cours de journalisme. Le journal s'appelait alors l'Illustration, puis en 1936, il devient l'Illustration Nouvelle. Ce n'est que le 11 août 1941 qu'il prit le nom de Montréal Matin. Toute jeune, mon père m'emmenait souvent le samedi matin au 1124 rue Marianne. La salle de rédaction y était presque vide, à part Jacques Beauchamp, qui me donnait un beau billet vert. J'entends encore mon père dire « T'es trop généreux, mon Jacques. » Un billet vert, c'est $1, j'imagine?
Oui,
billet vert,
ouais. Ça doit.
Ouais. Ben, c'est beaucoup d'argent.
Aux États-Unis, ça peut être plus que ça, mais
ils sont tous verts là-bas.
Dans le temps, ça n'existe plus.
Oui, dans les années 40, c'était beaucoup de sous, $1.
Il était effectivement. Ben oui.
Et si je ferme les yeux, je sens encore l'odeur de l'encre. J'entends le cliquetis incessant des téléscripteurs, dont l'un d'eux, placé sous une cloche de plexiglas, transmet des photos. Je vois le miracle de milliers de petits points noirs frappés sur le papier devenir une photographie. Il y a aussi les machines à écrire sur les bureaux, les téléphones noirs, les piles de feuilles, les pots de colle, les tasses de café sale et l'odeur persistante de tabac.
Les journalistes fumaient. Oui, oui, bon, tout le monde a fumé.
Ouais.
Sur un mur, les listes des élus politiques et leurs fonctions. Sans oublier l'étrange gang rouge qui émet régulièrement des bangs. Son langage codé indique les lieux où les pompiers sont appelés.
Ah bon, d'accord.
Oui. Jamais enfant ne reconnu plus merveilleuse salle de récréation. Je m'installe à un bureau, tape à la machine et deviens, comme papa, journaliste. Et effectivement, je deviendrai journaliste au Montréal Matin, après y avoir été correctrice d'épreuves, tout en poursuivant des études en création littéraire, littérature et cinéma, et en rédigeant le guide Mont-Royal. Les 15 années passées au journal rue Marianne, puis au 2580 boulevard Saint-Joseph, pour terminer voisin de la presse, rue Saint-Antoine, ont été de bien belles années, riches en apprentissages de toutes sortes. J'ai côtoyé des camarades devenus des amis, et j'ai rencontré au fil de mes entrevues plein de personnages hauts en couleur et d'autres moins flamboyants à qui je donnais l'occasion de prendre la parole. J'ai adoré chaque minute de cette vie. Parfois, nous organisons des retrouvailles, comme cette année, pour souligner le triste 40e anniversaire de fermeture du Montréal Matin. Occasion de revoir des collègues, de se souvenir, d'évoquer les copains et copines disparus. Nous sommes heureux et tristes à la fois. Heureux d'avoir vécu cette merveilleuse aventure du Montréal Matin et triste d'une jeunesse trop vite envolée. Ah, c'était Odette Bourdon.
Merci, Serge. Et Daniel, vous allez nous parler de reggae.
Oui, oui, un article que j'ai trouvé dans le rollingstone.fr qui est paru le 29 novembre. Le reggae de Jamaïque au patrimoine de l'humanité.
Oh, rien de
quand
loin.
Même, hein? Quand même, ça m'a surpris un peu, mais bon. L'UNESCO inscrit le reggae de Jamaïque dans le patrimoine comme un genre musical essentiel à la transmission des valeurs de l'humanité. Port-Louis, capitale de l'île Maurice, quelques 24 États membres du Comité de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel sont en ce moment réunis jusqu'au 1er décembre, donc c'était la semaine dernière, pour sacrer nos plus belles empreintes sur Terre. C'est ainsi que l'UNESCO a annoncé la célébration du reggae de Jamaïque, faisant désormais partie de la liste prestigieuse du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dans le communiqué, l'organisation salue ce genre de musique comme étant un vecteur de valeurs essentielles, relevant sa contribution envers les problématiques d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité.
Je ne sais pas si c'est dans l'article, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on sait s'il y a d'autres genres de musique qui sont dans ce patrimoine immatériel?
Oui, probablement, oui. Je pense qu'un peu plus loin, on en parle.
D'accord, merci.
Ça tombe à pic puisque la candidature pour ajouter le reggae au patrimoine était portée par la Jamaïque elle-même. Le reggae est exclusivement jamaïcain. C'est une musique que nous avons créée, qui a pénétré partout dans le monde, a déclaré Olivia Grange, la ministre de la Culture et des Sports de l'île. Apparue au cours de la fin des années 60, le reggae est un des genres les plus singuliers au monde, même s'il est à la base le résultat d'un métissage entre le ska et le rocksteady. Ça, on n'a pas entendu.
Oui, le rocksteady.
C'était de la musique qu'on entendait surtout en Jamaïque à l'époque. Okay. Alors, c'est ce qui a fusionné pour faire le reggae. En plus d'être une musique caractérisant les opprimés, les historiens aiment l'associer au mouvement social culturel des Rastafari, donc c'est un peu plus comme un mouvement religieux, apparu 30 ans plus tôt sous l'impulsion du militant Marcus Garvey, plus connu sous le pseudonyme de Black Moses, ou en français le Moïse noir. On ne vous apprend rien, le représentant le plus réputé du reggae demeure de toute évidence Bob Marley. Et ça, je trouve ça drôle parce que j'avais lu à quelque part, il y a quelques années, ben, il y a longtemps dans le fond, Bob Marley, qui était dans le fond, qui, pour les Jamaïcains, lui, représentait la réussite un peu des opprimés, blablabla, tout ça. Et on lui avait reproché de maintenant qu'il se promenait en BMW. Mm-hmm.
Puis, parce qu'il aurait dû continuer de souffrir avec les opprimés.
C'est un petit peu comme un acte de traîtrise, mais un gars comme lui, ça ne devrait pas se promener en BMW. Et il avait répondu, je ne sais pas si c'était juste pour les niaiser ou s'il était sérieux dans son affaire, il leur avait répondu qu'il avait choisi cette marque d'auto-là parce que c'était les initiales de son band. Bob Marley and the Wailers, BMW.
Ça bonne réponse, en
ça sort très bien. Mais je vais faire, si je me pars un ben, je vais l'appeler les Rolling Rough Rastafari, je sais pas quoi. Comme ça, je pourrais m'acheter une Rolls
Royce. Une Rolls Royce.
En tout cas. Donc, bref, celui qui a offert au reggae une reconnaissance internationale inégalée à partir des années 70. Plus tard, le reggae sera brillamment flirté avec d'autres genres typiquement américains, tels que le blues ou encore le jazz. En 1968, c'est pourtant la formation Toots and the Maytals qui a inauguré le terme en musique avec l'incontournable Do the Reggae. Et ce n'est pourtant que 2 ans plus tard, en 70, que les ondes propagent leur véritable premier hit, Monkey Man. Un tremplin vers les studios à succès puisqu'ils signent quelque temps après un contrat avec Island Records. Le groupe a ensuite parsemé sa légende d'albums essentiels de Funky Kingston à Reggae Got Soul jusqu'à Blablabla, sorti en 1993. Et curieusement, je regarde, puis il y a 2-3 endroits où reggae n'est pas écrit de la même façon. Le premier album, dans le fond...
C'est vrai que c'est curieux.
Ouais, la première pièce, c'est écrit « Do the Reggae », R-E-G-G-A-Y, et plus loin, c'est « Reggae », R-E-G-G-A-E, et c'est souvent...
Ça, c'est celle qu'on connaît plus aujourd'hui. C'est celle qu'on connaît, ouais. Ouais.
Il n'y a pas que le reggae à être récompensé. En début de semaine, la communauté d'agglomération du pays de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, a fait fureur compte tenu de son savoir-faire dans la conception de parfums. Je ne sais pas si vous saviez ça.
Oui,
j'ai déjà visité les parfumeries Fragonard, je pense, à Grasse. Les habitants de Grasse se sont appropriés et ont contribué à perfectionner ces savoir-faire qui se transmettent de façon informelle à travers un long apprentissage qui se déroule encore principalement au sein des parfumeries locales, a déclaré l'organisation d'après Le Monde. Donc, quels que soient les pays, l'UNESCO rappelle que son credo, tout en promettant de permettre une plus grande visibilité aux traditions et aux savoir-faire portés par les communautés, sans pour autant le reconnaître de critères d'excellence ou d'exclusivité. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres styles de musique qui ont été là, mais tout ça pour dire...
Il y a du parfum.
Oui, il y a du parfum. Il y a toutes sortes d'autres choses qui sont nommées.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we're delivering sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past. Jammin', 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 jammin
hope you like a diamond tune. I wanna jam it.
Difficile de ne pas écouter du Bob Marley lorsqu'on parle de reggae, Bob Marley et les Wailers et la pièce Jammin'.
Ça s'écoute bien quand même. Et moi, je vous amène complètement ailleurs que la Jamaïque, dans un pays plus froid, surtout ces temps-ci, c'est-à-dire Montréal. Donc, c'est cet article de Laurence Niozzi que j'ai pris sur le site de Radio-Canada Espace Autochtone. Il a été publié le 9 novembre dernier. Donc, on nous parle de ces fouilles archéologiques qui sont accompagnées d'une étudiante. Donc, elle s'appelle Cathy Tsaente Cross de Lille, qu'on va appeler Mademoiselle Cross de Lille pour la suite de cet article. Donc, elle nous montre du doigt un tout petit morceau de terre de la rue Peel, éventré en raison de travaux d'aménagement. L'étudiante de l'Université McGill et des archéologues travaillent à cet endroit depuis les deux dernières semaines. En 2016-2017, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé ici, des archéologues ont découvert à l'intersection des rues Sherbrooke et Peel des milliers d'artefacts d'un village autochtone qui pourrait être la bourgade d'Hochelaga qu'avait décrite Jacques Cartier quand il est arrivé en 1535. Certains artefacts dateraient même des années 1400. Et cette année, la Ville de Montréal a mandaté de nouvelles fouilles un peu plus au nord, sur la rue Peel, pendant des travaux de réaménagement pour poursuivre les recherches. Moins riche en artefacts, que l'intersection même, l'artère du centre-ville recèle néanmoins des fragments de poterie et de pipes, de même que des outils en pierre et en os. Et c'est M. Roland Tremblay, archéologue pour la firme Ethnoscope, qui nous en parle. Si Mademoiselle Cross de Lille travaille sur le chantier, c'est grâce à la recommandation du Conseil Mohawk de Kanawagé qui collabore avec la Ville de Montréal depuis les fouilles sur le chantier du pont Champlain en 2014. Une collaboration qui témoigne d'une volonté d'inclure davantage les Autochtones dans les fouilles archéologiques pour leur permettre de s'approprier leur histoire et leur patrimoine. Il fallait avoir nos propres archéologues, nos propres rapports et il fallait que certains des artefacts soient conservés chez nous, souligne Christine Zachary Dehomme, ancienne chef du conseil de bande. Aujourd'hui, et grâce à cette collaboration, plusieurs membres de sa communauté ont reçu des formations en archéologie de la ville. Et ce n'est pas un hasard, sans doute, si Mademoiselle Cross de Lille remarque un intérêt grandissant dans sa communauté pour l'archéologie, aujourd'hui enseignée à l'école secondaire Survival School de Kanawagé. Plus tard, elle aimerait d'ailleurs y enseigner. Quand j'allais à l'école, nous n'avions pas cette option. Maintenant, les jeunes sont de plus en plus enthousiastes et ils sont réellement éduqués sur la façon dont l'archéologie peut aider notre culture à survivre et nous aider à corriger l'histoire qui a été écrite à notre sujet. Il faut souligner que cette étudiante a 22 ans. Pourquoi j'ai choisi de l'appeler Mademoiselle, non pas Madame Cross de Lille. La délicate question est lancée : qui habitait cette île qu'on appelle maintenant Montréal avant l'arrivée des Européens? Et il n'y a pas d'unanimité sur la question ni sur la réponse. Pour de nombreux historiens, il n'y a pas de doute. Le village, sous la ville de Montréal, était occupé par les Iroquoiens du Saint-Laurent, un peuple de la grande famille iroquoienne qui comprend les Mohawks, mais aussi les Hurons-Wendat. Les Iroquoiens du Saint-Laurent, selon ces historiens, seraient un peuple distinct des Mohawks. Cette interprétation ne cadre pas avec la tradition orale des Mohawks, pour qui les Iroquoiens du Saint-Laurent seraient leurs ancêtres directs. Ça fait 50 ans que l'hypothèse des historiens existe et il n'y a pas de preuves. Ça suffit. Nos peuples sont ici depuis toujours, riposte Madame Zachary Dehomme. Mademoiselle Cross de Lille est du même avis. C'est une stratégie coloniale pour dire « oui, ce sont des Autochtones, mais ce n'est pas votre peuple ». C'est ce qu'elle affirme. Et par sa présence sur le chantier, donc cette demoiselle espère amener un point de vue nouveau sur les découvertes. Par exemple, quelqu'un peut regarder des roches et penser qu'il ne s'agit que de roches aléatoires. Mais ce que je sais de ma propre expérience culturelle Mohawk, je peux peut-être les identifier comme faisant partie d'un foyer où l'on fabriquait de la poterie, dit-elle. Serge, vous allez nous poser des questions?
Oui, il semblerait que certains
soient...
Oui, certains sembleraient déçus qu'il n'y ait pas de devinette.
On aime ça quand vous nous faites deviner.
Bon,
des
ben écoutez, mais pourriez-vous me donner, me donner des noms des cinémas à Verdun? Dans les années 1900 quelques, au début du... Ah, vous voulez une devinette? Ben, vous l'avez.
Je sais pas, voilà. Le cinéma aujourd'hui?
Non. Je vais vous dire ça. Alors, c'est un article qui est paru dans la petite revue que j'ai trouvée chez Archambault. C'est les revues sur les cinémas Beaubien, parcs et musées. Alors, puis il y avait une petite chronique là, sur l'histoire des cinémas de Verdun. C'est par Pierre Pajot, historien des salles de Verdun, des cinémas de Verdun.
Alors, il y a un historien salles de Verdun. Ouais, là, c'est spécialisé.
Oui,
c'est quand même.
Historien des salles de cinéma. C'est marqué historien des salles. Moi, je suppose que c'est Verdun,
mais
c'est peut-être des salles à Montréal. Bon, c'est ça. Alors, Verdun est un arrondissement de la ville de Montréal situé dans le sud-ouest de l'île. Pour l'essentiel, l'histoire des salles de cinéma commerciales dans Verdun se résume à quatre. Le Park Theater, P-A-R-K et non P-A-R-C, là, rue de l'Église. Le Palace, qui deviendra le Verdun Odéon. Le Savoy et le Fifth Avenue, les trois sont situés rue Wellington.
C'est tout... Pourtant, c'était pas un quartier francophone, ça, Verdun.
Non, ben,
c'était
la mode. Mais c'était la mode, hein.
Oui, c'est ça.
C'était la mode.
Mais le Palace, parce c'était chic. En français.
Ouais, mais
parce
là, c'était
le Palace.
Parce qu'il y avait des je pense qu'il y avait
des
palaces.
On pourrait dire le Savoie aussi, mais.
Je pense qu'il y avait des palaces dans toutes les villes à l'époque. Je demeurais à Granby quand j'étais jeune et il y avait. La salle existe encore, une salle de spectacle aujourd'hui.
Je pense que c'était plus chic d'avoir un nom anglais qu'un nom français.
Oui, puis c'est les Anglais qui avaient de l'argent, donc c'est eux qu'on voulait attirer, peut-être.
Oui. C'est aussi dans cette rue principale que les premières salles de cinéma apparaissent, comme le Vitographe dès octobre 1907, un scope qui deviendra le Bijou Moving Pictures en 1914-1917. S'il y a eu de belles salles de cinéma à Verdun, on le doit principalement à la famille Dunning, le père John Parnell Dunning et le fils Samuel John Dunning, connu comme John et parfois surnommé Mickey. Il aura une grande carrière aussi comme distributeur de films durant les années 1960 avec la compagnie Cinépix. Ce sont ces Dunning qui ouvrent le premier beau cinéma de Verdun, le Cinéma Park, puis ils feront de même pour le Fifth Avenue. Commençons. Le Cinéma Park, qui est aussi devenu le Fantasy un peu plus tard, dans un domaine fantaisiste. Le Park ouvre le 4 janvier 1915 avec 1172 places. C'est quand même un grand cinéma.
C'est vraiment grand,
ouais.
Ça.
Ce qui en fait donc un palace de quartier, la plus spacieuse des quatre salles de Verdun. Il y a un grand balcon, un orgue manuel et une grande marquise horizontale avec ampoule. Ce cinéma, situé au 720 rue Church, qui deviendra la rue de l'Église, au coin de la rue Joseph S.J. Dunning, veut conserver son statut d'indépendant. Cependant, en 1927, il doit céder la programmation à Famous Player. Le Park devient le Fantasy en 1984-85. Le cinéma Fantasy prolonge la vie de cette salle en présentant aussi bien du cinéma érotique que du cinéma de répertoire. Les 500 sièges du balcon sont utilisés. Il doit fermer le 21 mai 1985.
Oui, je trouve ça intéressant. Cinéma répertoire et érotique.
Érotique,
c'est...
Ouais.
Mais semble que c'est... Ça, ben, ça répond aux deux extrêmes du spectre.
Ben oui. Le cinéma a été abandonné depuis plusieurs années après un incendie en octobre 1997. Le Fifth Avenue, secondé par son fils et son épouse, S.G. Dunning ouvre le Fifth Avenue au coin de la rue Wellington et de la 5e rue, d'où le nom de la salle, le 27 janvier 1937, en présence de nombreux dignitaires, dont le maire Hervé Ferland. Sur la publicité, on peut lire 5e Avenue. Ce cinéma présentera du vaudeville et abritera notre station de radio. Dunning veut faire construire une grande salle divisée en deux pour permettre de présenter deux types de spectacles différents en même temps. Une grande salle de 1000 places pour le cinéma et une autre de 700 places pour d'autres activités. Le cinéma Savoy, non empruntant une salle de Londres, évidemment, ouvre le 26 février 1938. Le cinéma est situé aussi, lui aussi, rue Wellington. Il s'agit d'une salle de 868 places.
C'est une grande salle.
Oui. Et le Verdun Palace, l'Odéon Verdun, de 1913, toujours rue Wellington, il y a le Verdun
1913.
Palace.
1913?
Ouais. Wow. Ouais. J'ai été surpris, moi, par toute l'activité là, des cinémas dans à Verdun. Donc, il y a le Verdun Palace Moving Pictures. La chaîne Consolidated Theatres achète le Palace au printemps en 1928. Et enfin, Et en fait, le Verdun's Most Perfect Talkie Playhouse est situé au 3841 Wellington. Il y a 1000 places.
Je sais pas vous, mais j'ai comme le goût d'aller voir un film tout à coup. peut-être un répertoire. Merci beaucoup, Serge. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci, Serge Bradet, Daniel Lachance,
bienvenue.
Moi-même, Isabelle Falardeau. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine. Bonne journée.
Bonne journée.
Alors, au revoir. Bye.